Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit 30, l'After Foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 2, encore une petite demi-heure d'after avant les nuits du Casar enchaîné. Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là. Et on accueille Patrick qui est avec nous, supporter monégasque. Salut Patrick.
Les supporters de Monaco, on peut les laisser parler tranquille, ça va dérouiller.
Patrick,
bonsoir messieurs.
Salut Patrick. Pour le moment, on a été plutôt juste sur ce qu'on a dit sur Monaco, là, non?
Alors, vous avez été juste. J'aime beaucoup ce club, hein. Mais là, vraiment, ce qu'on a vu ce soir, c'était un match honteux. Je me demande ce qu'on a vu. Enfin, tout à l'heure, Thébos Kouro disait qu'il fallait qu'ils analysent. Mais moi, voilà, je demande qu'on m'appelle, sincèrement. Voilà, les personnes du standard, raison, numéro, pour qu'on puisse m'expliquer ce qu'on a vu. C'est juste pas possible. C'est pas possible. On est sur un match de Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'ils sont restés à la turbine. Il n'y a pas d'envie. Il n'y a pas de motivation, pas de leadership, pas d'agressivité, pas de jeu. Ils étaient en match d'entraînement, c'est pas possible.
Pas de défense.
Pas de défense. Alors, la défense, mais là, c'est...
Enfin, à part Kuhn qui a finalement fait un match correct parce qu'il fait un paquet d'arrêts.
Alors, c'est... oui, c'est vrai, mais une défense, ça ne se résume pas à un gardien. Mm. C'est pas possible, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. D'ailleurs, il est ultra lent. Mawissa aussi, il y a un peu d'envie, mais c'est trop faible. Enfin, collectivement, c'est trop faible, c'est pas possible.
En fait, si tu veux, tu as certains rares qui ont l'envie, mais qui sont mauvais, enfin pas au niveau, et tu as d'autres qui ont le niveau et qui n'ont pas l'envie. Ce soir, c'était ça. Et t'en as très peu qui combinent les deux.
Tiens, on va écouter Adi Hütter, donc tout à l'heure en conférence de presse, Patrick.
Je ne suis pas inquiet, mais énervé et déçu de ce que l'on a montré. Cela n'a rien à voir avec le mercato. On l'a décidé ensemble. Il y a des hauts et des bas avec les jeunes. J'aime développer leur jeu. Mais malheureusement, Bruges était nettement meilleur. On est tout de même content et on espère aussi beaucoup de Paul Pogba.
Alors ça, le fait qu'ils disent ça, en fait, c'est pour ça que je voulais surtout qu'on l'entende dans l'interview.
C'est terrible, en fait.
C'est très inquiétant.
Mais c'est pire que tout.
Parce que là, il en est
mec,
à se dire, maintenant, on espère.
On ne sait pas quel est le niveau.
Exactement, c'est fou.
Il n'a aucune solution.
C'est fou.
Moi, sur le banc, je l'ai vu sans solution. Je pense que Hütter, depuis le début, je pense que ce gars a un effectif hors norme et qui fait qu'il s'en sort en termes de classement.
C'est exagérant.
Non, mais je parle pour la Ligue 1. Il a un effectif qui est supérieur. Ils ont des avantages.
Oui, mais justement, le problème de Monaco,
et donc, il s'en sort,
c'est ce raisonnement.
Bon.
Le problème, c'est ce raisonnement qui nous ramène toujours au dimensionnement Ligue 1. Et en Ligue 1, aujourd'hui, au moment où on se parle, tu ne mettrais pas ta maison, ni ta bagnole, ni tes clubs de golf sur le fait qu'ils ne vont pas faire podium. Avec Adi Hütter.
Mais non. Parce que
qu'ils ont les joueurs pour probablement le faire. Ouais. On est d'accord.
Et ils ont plus de bagnole que Bruges. Hein.
Et tout le problème, tout le problème du raisonnement de Monaco, il est là. C'est de s'être enfermé dans l'idée Thiago Scuro, tout va bien tant qu'on est deux ou trois. Ouais, tant qu'on est deux ou trois. Bon, alors, ok. Même si on se fait chier en vous regardant, c'est pas un problème parce que Monaco, de toute façon, il n'y a pas trop de pression. C'est pas une équipe dont on parle souvent. On critique pas. Il n'y a pas le même engouement qu'autour de Paris, Lyon, Marseille. Tout ça. Donc, ok, on met de côté, on s'en fout. Il n'y a pas d'attente démesurée. Nous, s'ils font pas deux ou trois, bon. Mais eux, évidemment, là, ça leur mettrait le feu à ce moment-là. Et donc, tout est ramené tout le temps à ça. Mais pas de problème, on peut faire deux ou trois, pas de problème. Mais la question qui doit se poser, Thiago Scuro, c'est si vraiment il peut, avec cet entraîneur-là. Mais jusqu'au bout, je le répète, après, on va pas mettre notre maison parce qu'ils ont assez de bons joueurs pour le faire dans notre Ligue 1.
Oui, moi, il y a des choses qui me viennent et qui m'interpellent. Et quand tu es dirigeant de club ou entraîneur, ta communication, elle est quand même capitale. Et là, à mon avis, elle est désastreuse. Tu vois, on a beaucoup critiqué ce qui s'est fait à l'OM parfois l'an dernier, mais quand Benatia parle, tu sais que voilà, les joueurs vont l'écouter et ils savent ce qu'il faut entendre. Là, tu as eu Thiago Scuro dans son interview qui a dit effectivement deuxième, troisième, donc il n'a pas évoqué le fait d'être à bloc sur la Ligue des Champions, de faire un parcours de dingue. Non. Les joueurs l'entendent.
Ouais.
Et Hütter qui vient de dire, il y a Pogba qui peut-être va arriver, les joueurs l'entendent aussi. Je veux dire, tout ça est catastrophique. Les joueurs n'ont pas été conditionnés pour aller parfait en Ligue des Champions. Et les joueurs maintenant sont conditionnés à attendre l'arrivée hypothétique et potentielle d'un joueur qui n'a pas joué depuis deux ans.
C'est juste inacceptable.
Bien sûr.
Mais je ne sais pas si vous avez écouté, hein, mais il a dit, il n'est pas énervé, il est déçu. Mais
c'est incroyable. Il a quand même dit qu'il était en colère. Il me semble, hein, ou alors j'ai mal compris, mais pour moi.
J'ai entendu, je ne suis pas énervé, mais déçu. En tout cas, il devrait révolter.
L'inverse, je crois, il a dit.
Je ne comprends pas. Enfin, même là, la conférence de presse, je trouve que le ton, il est tellement calme. Ce qu'il a vu pendant 90 minutes, c'est pas
il
possible.
Il dit, je ne suis pas calme. Inquiet, mais énervé et déçu.
Ah, voilà.
Voilà, pour être exact. Voilà.
Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il ne soit pas inquiet. Parce que ce soir.
Donc, il aurait dit, je suis inquiet, énervé et déçu.
Je suis inquiet, surtout. Je suis inquiet parce que, c'est, par exemple, si j'ai des coachs, la première réaction, déjà sur le banc, ce serait de les pourrir à un moment donné, même là, dès la première période, pour les réveiller. Et ensuite, ce serait de dire en conf de presse, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On a préparé ci, ça. Je leur avais dit d'être attaqué dès la troisième minute. Donc, ça, voilà. Non, il ne sait pas ça.
Ah bah déjà,
je suis pas inquiet.
J'espère qu'il va leur préparer 3 heures de vidéo rien que sur le placement défensif.
Ouais, enfin, écoute.
Et le placement défensif, ouais, c'est taper autant que tu veux sur les défenseurs, mais et la façon de jouer là, en 4-2-4 comme ça, avec deux milieux de terrain qui finalement sont défensifs, donc c'est une sorte de 6-4 pratiquement, sans liaison au milieu, avec deux mecs devant qui sont pas bons. Je vois pas d'issue en fait à ce truc-là.
En fait, dans les intervalles, il y avait effectivement quand Monaco au début, parce qu'après ils ont même plus le ballon, avait le ballon, il y avait pas de liaison. Et puis alors à l'inverse, quand Bruges avait le ballon, dans les intervalles, ils étaient trouvés en permanence entre effectivement le bloc de devant, enfin le petit bloc de devant, qui a pas fait grand chose. C'est vrai que Balogun Biret aussi au passage, hein, parce que ça s'est pas trop vu évidemment, ils étaient pas trop dans la moitié de terrain. C'était très 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 faible, très insuffisant. Donc il y a quand même beaucoup de moi ce qui me fait le plus
Biret,
peur au final.
Il est dans un tunnel. Là.
Ouais, ce qui me fait le plus peur de tout, c'est de te dire que t'as des joueurs quand même importants dans cette équipe et qu'à la fin tu dis ah mais il y a pas Zakaria, on est mort. Ah tu dis ah, bon d'accord, ok.
Mais tu te rappelles l'année dernière la période où il est blessé?
Bien sûr.
Bah comment c'est possible à ce point-là quoi? Il mettait plus un pied devant l'autre, il était pas là. T'as l'impression que c'est lui qui gère tout.
Bon, Patrick, le mot de la fin pour toi, est-ce qu'à 18h, il y a encore l'homme de la situation?
C'est vraiment difficile de répondre à cette question, parce qu'au final, qui serait l'homme de la situation?
Mais en gros, on va dire que demain, t'apprends qu'il saute, tu vas pas pleurer. Hein.
Non, ça c'est sûr, mais on va mettre quelqu'un d'autre, on n'aura pas l'assurance d'avoir une motivation qui sera.
Ah, moi, je pense que tu le prendrais, le risque.
Oui, le risque, je le prendrai, mais c'est pas pour autant que j'aurai des assurances que les résultats sont meilleurs.
Non, mais enfin, l'assurance, tu l'as jamais. Mais bon.
Il faut une vraie remise en question collective et puis il faut arrêter de compter sur les personnes qui sont pas là. Enfin, sincèrement, entendre Paul Pogba aujourd'hui, c'est juste incroyable.
Non, là, c'est pas incroyable, c'est ridicule de dire ça.
Merci, Patrick.
Merci à vous, monsieur.
Salut, Patrick,
et à bientôt. Voilà pour Monaco.
Ils savent pas qui c'est, Patrick.
Juste, j'aimerais quand même qu'on accueille Benjamin, qui est un auditeur qui nous suit, qui vit en Belgique. Salut Benjamin.
C'est pas grave.
Bonsoir tout le monde.
Salut Benjamin.
Très de vous avoir.
Toi, tu voulais nous faire un petit rappel historique sur les duels franco-belges, je crois.
Bah, c'est pas compliqué. Si on retire PSG de l'équation, ça, je pense que ça fait au moins 10 ans qu'il n'y a pas un club français qui bat un club belge en Coupe d'Europe.
Et voilà, à chaque fois que je le dis, on rigole.
Je crois que la dernière fois, c'était Monaco contre Lierse.
Ça me fait bien rire, entre guillemets, je me permets de...
Et la dernière fois que Monaco a pris une tarte, c'était pas Bruges d'ailleurs?
C'est pas l'autre club de Bruges?
Monaco en Ligue des Champions, c'est Bruges qui leur met 0-4. Et en Europa League, c'est Anderlecht qui leur met 1-5.
Voilà.
Et Daniel...
Moi, j'ai le souvenir de la Gantoise avec Lyon aussi.
La Gantoise avec Lyon, ben, tous les clubs belges tapent les clubs français et ça me fait bien rire parce que ça fait des années que Daniel vous le dit, on le prend toujours pour un idiot et moi je suis un grand fan de Daniel, mais le football français, il est à la ramasse.
Bon, par contre, parlons des sélections. Alors.
Le football français a gagné la Ligue des Champions il y a quelques semaines, mais
non,
bon.
Non, j'ai dit, avant de démarrer, mis à part le PSG, parce que quand on a plus d'un milliard de dépenses, on est hors concours. Mais... Je vais dire, le football français, en général, se fait taper partout. L'année dernière, c'était Nice. On a cherché des excuses, vous écoutez, en disant « Oui, mais il ne joue pas à fond. » Non, arrêtez de vous voiler la face.
T'as l'air d'y prendre un certain plaisir.
Ah ouais, il a raison. Dis-lui qu'il a raison.
Mais vous n'avez pas le niveau.
Et l'OM va jouer Bruges et la Saint-Gilloise dans son parcours.
Non, ce n'est pas une question de prendre un certain plaisir. C'est à un moment donné... l'arrogance de se dire on le joue pas à fond. Non, arrêtez de dire ça. C'est un peu comme le mec qu'on invite le dimanche à la maison jouant à un tennis de table. On lui met 10 tartes, il va gagner une manche et il va faire le malin. Arrête.
Et Marseille, ça, c'est au Vélodrome ou là-bas?
Je vais te dire ça.
Et attention, attention à Marseille. Moi, j'ai ce que je disais au Standard. Attention à Marseille. Pourtant, j'aime beaucoup Marseille parce qu'en Belgique, on a.
Ils vont à la Saint-Gilloise déjà.
Marseille. L'Union Saint-Gilloise est plus fort que Bruges. Donc, les gens, vous ne connaissez pas l'Union Saint-Gilloise, mais sincèrement, c'est très costaud. C'est des mecs.
Ils ont gagné à Eindhoven, d'ailleurs.
Non, mais c'est genre d'équipe quand tu vas jouer.
L'OM va à Bruges et va à la Saint-Gilloise.
Eh ben, c'est pas deux cadeaux. Quand tu vas jouer dans ces stades-là, tu te fais bouger.
Et quand je vous ai écouté hier, en disant c'est une grosse surprise que l'Union Saint-Gilloise allait gagner au PSV, non, c'est pas une surprise pour nous en Belgique, c'était pas une surprise du tout. On savait qu'on allait tarter le PSV, on savait Monaco, j'aurais pu mettre 1000 euros aujourd'hui sur la table, que Monaco allait se faire défoncer par Bruges aujourd'hui, c'était certain. C'était sûr et certain parce que les clubs français ne font peur à personne en Coupe d'Europe, mis à part le PSG. Il n'y a aucun club français qui a la prestance.
Benjamin, on va rester en contact parce que si d'aventure l'OM va gagner en Belgique, on te rappelle quand même.
Mais je leur souhaite parce que j'aime beaucoup Marseille en plus. Donc moi, je suis très ami par exemple avec Basile Boli. Donc j'ai aucun souci avec ça. Mais sincèrement, il faut redescendre d'un cran, faire preuve un petit peu d'humilité, respecter les équipes qui sont en Coupe d'Europe, parce que il suffit pas d'arriver sur un terrain et de penser qu'on va gagner. Le match, il faut le jouer.
Mais t'es un vrai.
Merci Benjamin.
On revient dans l'after à chaque fois qu'il y a des équipes belges, on va rigoler.
T'es une vraie question qui se pose maintenant sur le fait de se qualifier pour les Coupes d'Europe. Puisque budgétairement, économiquement, c'est capital, et ensuite de jouer la Coupe d'Europe. Les seuls qui la jouent, alors le PSG évidemment, l'OM, parce que l'OM, t'as une pression populaire qui fait que tu ne peux pas lâcher un match, mais tous les autres qui n'ont pas la pression qui va avec.
L'important, c'est d'être placé en championnat, voilà, pour y revenir.
C'est ça qui est quand même horrible. Parce qu'en fait, les supporters.
Je l'ai dit, c'est un mauvais calcul, parce que plus tu gagnes de points en Coupe d'Europe, plus t'as d'argent.
Bah oui, mais quand tu participes et tout, tu sais exactement combien tu vas toucher, ça suffit.
Bon, voilà pour la Ligue des Champions. Dans un instant, la Ligue 1, l'actu du jour, conférence de presse exceptionnelle aujourd'hui de Marc Keller à Strasbourg, entre autres.
Je dirais plutôt Marc Colère.
Pas mal.
Le quart d'heure Gilbert arrive.
On va pas parler que de ça. J'ai d'autres infos à vous faire partager. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Avec Daniel Riolo pour 1-2-3 avant les nuits du Casar enchaîné, bien sûr. La Ligue 1 reprend demain soir on aura Lyon-Angers, on va parler des matchs du week-end, mais d'abord Strasbourg qui joue d'ailleurs au Paris FC dimanche après-midi. Ce matin donc, conférence de presse.
Nous y serons,
exactement,
on ne peut pas rater ça.
Exactement. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ce matin, conférence de presse de Marc Keller, qui n'est pas du tout un habitué de ce genre de communication comme ça, un peu inattendu. Et donc, tout ça pour faire suite aux banderoles de la dernière fois, au boycott qui date maintenant depuis plus d'une saison, du premier quart d'heure, des supporters. Je crois, faut refaire l'histoire, hein, que le club est revenu aussi au plus haut niveau avec cette fameuse tribune Ouest qui a porté en partie aussi les joueurs. Là, il y a une incompréhension totale entre le club et les supporters. Écoutez ce qu'a dit Marc Keller ce matin.
Comment le garder un an de plus? Dans un an, il va rejoindre Chelsea et ça lui permet de faire encore cette année à Strasbourg, son année de capitaine, nous amener en Coupe d'Europe. Et donc, je pense que l'équilibre qu'on a trouvé est tout bénéfique pour notre club. Donc, pour moi, je dirais le joueur a fait des efforts, il voulait rester. Moi, j'ai envie de lui dire merci, Manu, Emma, d'être resté un an de plus. Voilà, point à la ligne. Et c'est notre capitaine. Et on ne s'attaque pas au capitaine qui n'a rien fait.
Alors voilà, parce que c'est évidemment le KMG qui a mis le feu aux poudres ces derniers jours, puisqu'il a posé avec le maillot de Chelsea où il a signé pour la saison prochaine. On a déjà raconté ça dans l'after, hein, ces derniers jours. Mais en fait, finalement, ce qui est important dans tout ça, c'est le rapport club ultra, parce que derrière, Strasbourg a décidé de sanctions, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de nouvelles dispositions d'organisation pour les ultras. Donc, fermeture du local, enfin contrôle du local où ils construisent les tifos et les banderoles. Donc ça veut dire regard sur les fameuses sur les banderoles.
Ça généralement c'est pas bon parce que ça apporte un conflit obligatoirement. Bah, ça ne peut que dégénérer.
Il y a déjà conflit. Hein, donc
ça ne peut que dégénérer parce que tu dois savoir. Que...
Retour des stadiers dans la tribune des supporters. Il y avait plus de stadiers parce que tout se passait bien.
Donc ça va dégénérer. Il va y avoir des incidents.
Et à nouveau billet nominatif dans la tribune des ultras.
D'accord.
Voilà, ça, c'est les différentes mesures qui ont été prises.
Tu dois savoir, et au club, on a dû te dire que on rejoint dans les ultras strasbourgeois des ultras de clubs allemands, type Karlsruhe et un autre club là.
Berlin, Hertha Berlin.
Ouais. Et que ça peut chauffer, qu'il peut y avoir des incidents, parce que je pense que ça va se durcir des deux côtés, les positions vont se durcir. Que on l'a dit l'autre jour, moi j'en suis vraiment convaincu, je pense que la majorité qui est de l'ordre de pas loin de 80% ne suit pas ce mouvement-là.
Tu peux monter encore, Daniel.
Que ce mouvement, il y a plein de choses qu'on peut entendre et de revendications. Tiens, l'autre soir, on nous a reproché de pas être allé plus loin dans le débat. Le débat de la multi, on est les premiers à l'avoir fait, il y a des années maintenant. On a fait un numéro dans la revue là-dessus. On a fait combien d'émissions d'after on a fait là-dessus quand le phénomène est apparu. Il ne faut pas venir nous reprocher aujourd'hui de ne pas parler de ce sujet. On ne le découvre pas. On a tout fait, on a tout traité. Marc Keller est revenu ici. Ben, on a invité combien d'économistes on a invité pour parler de la multipropriété. Il n'y en avait même pas autant que ça dans le foot qu'on en parlait
d'ailleurs,
déjà ici.
Marc Keller a donné un chiffre là. Sur les 5 grands championnats aujourd'hui, il y a 48% des clubs qui sont multipropriétés.
Oui,
et 1 sur 2. Et c'est un mouvement qui va continuer. Hein. Sauf à avoir un Pinot ou un multimilliardaire capable d'assumer seul son club, ou un État, comme le Qatar, qui en multi d'ailleurs, puisqu'ils ont une partie de Braga.
Absolument.
Bon.
Donc je pense que malheureusement, ça va se durcir la situation à Strasbourg.
Alors ça va se durcir, mais moi je vois même autre chose. Parce qu'on connaît le mouvement ultra et la solidarité dans ces cas-là qui peut s'exercer. Je serais pas étonné qu'il y ait des banderoles dans d'autres stades ce week-end pour réagir à ce qui se passe à Strasbourg.
Écoute, on verra. Hein.
Bon, on verra et on verra.
En tout cas, la prise de parole de Keller a été importante. Il a pas parlé de son cas perso et de la banderole qui le visait.
Non, il a dit, je me mets en avance. S'il y en a un qui doit prendre les coups, c'est moi.
Il y a quand même un élément parce que je me souviens que l'autre soir, Kevin faisait référence à un joueur qui est un peu totem à Strasbourg et le gars qui était venu là, l'auditeur, tu sais, très sympa.
Cyril.
Voilà. Lui aussi, bon, c'est souvent le nom de Liénard qui revient tout le temps un peu.
Oui.
Liénard, symbole et tout. On préfère jouer le maintien avec Liénard. Le problème, c'est
parce qu'à Strasbourg, il n'y a pas beaucoup de monde qui préfère jouer le maintien que l'Europe. Hein, mais bon.
En l'occurrence, il s'est exprimé, Liénard. Il a parlé. Et il a dit que ce qui s'est passé en tribune était absolument scandaleux.
Mais en fait,
donc,
Liénard.
Bon, le joueur qu'on veut mettre en avant comme le joueur, la bannière, il est 100% du côté de Keller.
Bien sûr. Et pourquoi
Keller,
pourquoi
le
Daniel
même qui a complètement sauvé le club.
Pourquoi Daniel? Donc, parce que Liénard, il a vécu de l'intérieur, la remontée de l'enfer,
bah oui,
jusqu'en Ligue 1, et il a vu le boulot qui a été abattu, concrètement. Mais ça, tout le monde l'a vu.
C'est ça que je trouve qu'il y a une forme.
Le problème maintenant, c'est la radicalité des ultras. Et que va-t-il se passer? Moi, j'espère effectivement que le prochain match à la Méno, c'est contre Marseille. Vendredi de la semaine prochaine, là.
Ah oui, gros match en plus.
En plus, gros match, donc espérons que.
Bah, vendredi prochain même.
Oui, vendredi.
Ah, mais c'est intéressant sur un point, entre guillemets, sociologiquement, mais après, ça va pas résister s'il y a des violences et s'il y a des choses qui se passent dans la tribune. Mais c'est que t'as un vrai attachement à chaque club, on l'a dit, sur le remplissage des stades. T'as une vraie identité locale sur chaque club. Et donc, à Strasbourg, ceux qui s'estiment les gardiens. Mais alors de façon, tu vois, absolue et très rigide de la, on va dire, de l'identité, ils estiment qu'en gros ils défendent le dernier, qui sont les derniers des Mohicans. Donc en gros t'as deux façons de faire, c'est-à-dire soit tu raisonnes comme ça et effectivement dans ce cas-là, tu ne supportes plus ton club, parce que si tu dis que tu préfères jouer le maintien. Enfin, tu sais, quand t'es supporter d'un club.
Mais ça devient ça maintenant, le discours.
Que de jouer l'Europe parce qu'il y a de la multipropriété. Je veux dire, c'est quand même un discours qui est très, sportivement, qui est très, très particulier.
Tout dépend de ce que fait la multipropriété. Si la multipropriété te tue, et si elle te dénature complètement et tout, moi, je comprends parfaitement ce combat-là. Maintenant, est-ce que ce combat doit t'amener à, ton club qui a disparu parce que personne l'a repris, ou ceux qui l'ont repris n'étaient pas en multi mais l'ont flingué, ou Bordeaux? c'était pas une multi, enfin quelque
si, part. C'est multi Bordeaux. Pour eux, c'est multi, un avait, club belge, un club portugais.
Il y avait plusieurs clubs, mais voilà, avec un bandit
un qui a mis la clé sous la porte,
le club tout en bas. Mais est-ce que quelqu'un d'autre s'était présenté pour racheter? Oui, un choix a été fait, et en plus c'est les supporters qui ont fait le choix du bandit et qui l'ont soutenu jusqu'au bout et qui le soutiennent encore. Donc des modèles différents.
Pas si simple à Bordeaux.
Ah, bah les supporters ont soutenu Lopez.
Au début, plus aujourd'hui.
Au moment du rachat et jusqu'au bout du bout.
Et en parenthèse, Bordeaux, il joue peut-être sa tête ce week-end contre Angoulême.
Enfin bon, des modèles de clubs qui échouent avec un président local, tout seul, sans multi, en fond du terroir, avec des joueurs, ça peut
dans
se planter,
le cas,
ça
dans
peut
le cas
réussir. Multi, ça peut planter. Là, Strasbourg, t'es multi, mais t'as un président qui est au-delà d'emblématique, puisque c'est ancien joueur du club.
Et t'as un
président qui a relevé le club, qui a tout fait.
Et t'as un propriétaire qui a mis plus d'argent même que ce qu'il avait promis au départ. Ce qu'a rappelé Marc Keller aujourd'hui, c'est-à-dire
qu'il n'y a pas un modèle vertueux dans le foot. Ça n'existe pas, le modèle vertueux dans le foot. On peut parler toute l'histoire du football, on trouvera des cas de réussite et d'échecs avec des profils à la tête des clubs totalement différents.
Il n'y a pas un modèle générique.
Non, il faut arrêter. En fait, le foot est rempli d'illusions. Ce sport est rempli d'illusions. Il faudrait faire un soir. L'inventaire des illusions que peut vendre le foot.
À ce titre, Strasbourg va être très intéressant à suivre cette année, parce que si Strasbourg finit dans les 5 premiers et fait un beau parcours en Coupe d'Europe, bon, on dira quoi de la multi Blouco?
Ben eux, ils s'en foutent. Les ultras s'en foutront peut-être.
Mais on dira que c'est une réussite.
Ben peut-être.
Moi, je pense Gilbert et Daniel que le débat plus global, plus sociologique, plus historique sur ça, c'est qu'est-ce que vous entendez par identité? Moi, je pense qu'il faut en rester au sport et que l'identité d'un club, c'est aussi sa façon de jouer, sa façon d'être, ses valeurs sur le terrain. L'OM, t'en parlais, quand tu parles de Zerbi, même de la tactique, c'est important de savoir, est-ce que le public est prêt à accepter ce type de jeu? Il y a un type de jeu, il y a un type de joueur. À Rennes, ils veulent des joueurs du centre de formation parce que c'est un club formateur. Si tu enlèves, comme il y a 2 ans, tous les mecs et que tu mets des joueurs qui viennent de n'importe où, eh ben, ça ne va pas. Je pense que c'est ça où tu dois chercher aujourd'hui l'ADN. C'est pas juste de dire on veut pas de la multi et on veut que des Alsaciens, par exemple. Tu vois, c'est pas ça l'histoire. C'est est-ce que tu gardes les valeurs de ton club dans la façon de jouer, dans l'appel, la façon de faire appel ou pas à ton centre de formation,
enfin, même
dans la
là, façon de t'attaquer. Même ça, c'est compliqué.
Oui, mais
même
mais,
ça, souvent,
mais
ça peut finir en illusion.
Oui, mais
parce que tu trouveras des exemples dans l'histoire du club où t'as pas joué de cette façon-là.
Non, ce que je veux dire,
Daniel, une fois dans le cas de Strasbourg, c'est mieux qu'avant.
Non, mais ce que je veux dire, Daniel, c'est que tu peux avoir financièrement différentes formules. T'as cité tous les cas qui pouvaient marcher ou pas marcher. En revanche, je pense quand même qu'effectivement, tu dois faire attention à une forme d'ADN du club. Quand tu es à Lens, tu fais pas n'importe quoi. Quand t'es à Strasbourg, effectivement, tu peux pas totalement n'importe quoi. À Marseille, tu fais pas n'importe quoi parce que t'as effectivement des supporters qui attendent certaines choses. Mais pas n'importe quoi, ça veut pas dire juste dogmatiquement non à tel système économique. Ça veut peut-être dire sportivement, soyons vigilants pour que, je te dis, on tue pas le centre de formation dans certains cas, qu'on fasse tel type de jeu parce qu'on veut jouer de cette façon-là ici. C'est ça qui compte. Moi, je trouve que ce que tu vois à Strasbourg, à la fois dans ce qui se passe au stade, dans l'atmosphère, dans l'attachement que les joueurs ont montré l'an dernier au club, aux couleurs, dans l'engagement, ce que Rosigno a apporté.
Strasbourg a raconté l'année dernière.
Elle est dingue. Cette histoire.
Avec les images du vestiaire et tout ça. Et tant que Marc Keller est là un peu en gardien du temps.
Oui, voilà.
Les supporters te disent qu'il est là que pour serrer les louches. Bon, ok, mais bon.
Ce qui est faux. Je précise que les ultras du Racing sont les bienvenus dans l'after. Hein, parce que
bien sûr qu'ils viennent.
Je sais qu'ils écoutent. Deux petites infos encore, les gars, avant la libre antenne. Vous dire que Luis Enrique a remis ça. Il a refait un vote pour le Capitana. Et qui a gagné?
Marquinhos.
Voilà. Alors, au passage. J'en parlerai sur mon compte.
Deuxième du scrutin, Achraf Hakimi. Troisième, Vitinha. Quatrième, Dembélé. Ça a été transparent. Hein. Et puis, autre info PSG importante, Neves absent contre l'OM, hein, suite à sa blessure de la semaine.
Mais ça, c'est intéressant. Enfin, c'est important. Sur mon compte TikTok, je préviens, je vais parler des pénalties au Paris Saint-Germain.
Teasing TikTok, donc.
Ouais.
Très bien.
Je vais vous donner la solution pour les pénalties au PSG.
Teasing Flow the Goat. Si, alors, une info, vous savez qu'on suit les droits télé de près dans l'after. C'est l'équipe qui révèle ça ce soir. Il y a bientôt l'appel d'offres pour la Ligue des Champions. Et en fait, l'UEFA, c'est gros malin, ils ont mis en place un lot, c'est assez intelligent, ils ont mis en place un lot, une limite spéciale GAFA. C'est-à-dire, ils disent, nous, on est prêts à vendre sur multi-territoire. Par exemple, t'es Amazon ou t'es Google ou n'importe qui, ou Netflix. Et ben, on te dit, on va te vendre la France, l'Espagne, l'Angleterre. Enfin, tu vois. Donc, c'est vraiment pour eux, quoi. Et ça peut être un problème pour Canal, parce que si ces gros acteurs-là se disent, bah, attends, bah, moi, j'achète pour toute l'Europe, et je mets le méga pactole.
Ah oui, c'est pas la même histoire.
Et voilà. Donc, voilà la
fin du jour. Canal reviendra à la Ligue 1, du coup.
Bah, peut-être. On verra. Sinon, Chancel Bemba attaque l'OM en justice. Rappelez-vous, on avait parlé de harcèlement moral pour Kylian Mbappé au PSG. Chancel Bemba dit, moi aussi, j'ai été victime de harcèlement moral. Enfin, il parle pas de Mbappé, c'est moi qui fais un petit raccourci. Mais donc, il parle de harcèlement moral, de pression dans le cas de tentative de transfert et de la volonté d'imposer un intermédiaire étranger pour un éventuel transfert. Ça nécessite quand même quelques éclaircissements, parce que si ce que dit Mbemba est vérifié... ça ressemble effectivement au cas Mbappé à l'époque. Bon, nous on n'a jamais compris pourquoi il avait été mis de côté, à vrai dire, parce qu'en plus c'était un excellent joueur. Mais voilà pour Mbemba.
Est-ce qu'on sait si ses parents l'ont appelé Chancel en hommage à Jacques Chancel ?
On sait toujours pas. En revanche, pour finir, petite histoire Mourinho.
Ah.
Il y a toujours une histoire Mourinho. Donc Mourinho, ça y est, c'est fait, il a signé à Benfica. Et donc le président de Fenerbahçe a vexé.
Ouais,
Il a dit, il y a peut-être une histoire quand même. Il dit, et si Mourinho avait fait exprès de perdre contre Benfica en barrage, en se disant, au moindre faux pas de Benfica, c'est moi qui aurais la place. Non, il retort quand même le gars.
Ouais.
Et Mourinho répond, attends, mais dis-moi toi le président, comment se fait-il que le joueur qui nous a éliminé avec Benfica, Akturkoglu, a été acheté par Fenerbahçe juste après le match? C'est vrai. C'est ce qui s'est passé.
Il est fort, José.
Ouais, il est fort, José. Ouais. Bon. On va le suivre à Benfica, bien sûr.
Allez.
Dans un instant, les nuits du Casar enchaînées et l'after de la soirée de retour avec la Ligue 1, bien sûr. Salut Daniel, salut Florent.
RMC, l'after foot.